Le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Katarzyna Blay-Grabarczyk, qui est la vice-doyenne de la faculté de droit de Montpellier. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui pour nous parler aujourd'hui de la guerre en Ukraine. Donc vous êtes maître de conférence, donc vous enseignez à la faculté de droit de Montpellier. Et vous allez pouvoir nous expliquer en tant qu'enseignante du coup un petit peu mieux comment se passe ce conflit en Ukraine. Et pour commencer du coup, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est la situation, l'état actuel de la situation en Ukraine ?
La situation est extrêmement mouvante, hein, c'est-à-dire que chaque jour il y a de nouvelles informations que nous avons. Alors actuellement, le gros de combat se concentre sur ce qu'on appelle le front est et le front sud. Le front est, c'est la partie du Donbass qui était déjà sous le contrôle de pro-russes depuis 2014 et qui est à l'origine, on va dire, de conflits actuels. Et le front sud, c'est toute la partie qui s'étale entre la mer d'Azov et le mer Noire, donc c'est là où se situe la Crimée en fait. C'est la partie du territoire qui permet de faire la jonction avec la Crimée. Et c'est là où se trouve notamment Mariupol, Kherson, donc en fait c'est toute cette partie sud donc de front. Donc c'est là où les plus gros des combats se concentrent. Donc Mariupol est actuellement entre les mains des troupes russes. En revanche, les Ukrainiens ont réussi à prendre un peu plus de territoires, un peu plus à l'est, notamment au niveau des Kharkiv. Donc là, ils ont réussi à reprendre la ville. Et en plus de ce combat qui se déroule sur ce front est et ce front sud, vous avez des frappes régulières qui sont opérées par l'armée russe, par l'aviation russe ou à partir du sol russe, à la fois au nord de l'Ukraine, donc vers la région de Kiev, un petit peu en nord de Kiev, mais également dans l'ouest, puisque notamment la région de Lviv ou les régions autour ont déjà été bombardées. Donc il y a le gros des opérations militaires qui sont donc au sud et à l'est, et le frappe ponctuelle aérienne qui en fait peuvent toucher n'importe quelle partie du territoire ukrainien.
Oui, du coup, c'est assez pour les frappes aériennes, c'est plus disparate en tout cas.
C'est plus disparate. L'armée russe tente de cibler les objectifs dits stratégiques, c'est-à-dire soit l'endroit précis où ils ont identifié, par exemple, les munitions, les dépôts d'armes, les objectifs militaires, donc tout ce qui peut être avoir un objectif stratégique pour affaiblir donc l'armée.
Oui.
L'armée ukrainienne.
La stratégie de la guerre, donc affaiblir l'ennemi.
L'ennemi, tout à fait.
Et en parlant des territoires qui sont les plus touchés, le Donbass notamment, il y avait eu déjà un conflit au Donbass. Ça fait partie des facteurs qui font qu'il y a cette situation aujourd'hui ?
C'est-à-dire, ça fait partie de raisons qui ont poussé Vladimir Poutine le 24 février à attaquer l'Ukraine. En fait, le territoire du Donbass, donc c'est le 12 oblasts, c'est l'oblast de Donetsk et Luhansk, donc on pourrait dire les départements.
D'accord.
En correspondant, enfin, si on voulait rapporter au territoire français. Ces territoires vont connaître, en tout cas, le territoire du Donbass va connaître un certain mouvement en 2014, qui était un mouvement national ukrainien, où les Ukrainiens se sont révoltés contre le gouvernement qui était en place, qui était le gouvernement pro-russe, mais surtout pas parce que c'était le gouvernement pro-russe à l'époque, c'est parce que c'était le gouvernement qui était particulièrement corrompu. Donc c'est là ce qu'on appelle l'Euromaïdan ou les manifestations de Maïdan, donc qui vont débuter en février 2014, qui vont donner lieu à une série de manifestations, et surtout ils vont sceller les départs du gouvernement de Viktor Yanukovych, qui était le président ukrainien de l'époque et qui était un proche du pouvoir russe.
Pouvoir russe, d'accord.
Voilà, ça permettra d'arriver au pouvoir des gouvernements qui étaient beaucoup plus pro-européens. Et ces manifestations qui ont lieu notamment à l'est du pays, puisque Kharkiv c'est la deuxième ville la plus grande de Russie, donc ils ont à Kharkiv, et ils ont aussi lieu dans ces oblasts. Et en fait, la population qui habite ces régions était majoritairement une population russophone et pro-russe. Et ces manifestations vont se transformer en un mouvement de révolte, en fait, de volonté de libéraliser, en fait, le Donbass. D'accord. Et avec, bon, initialement et officiellement, la volonté de proclamer l'indépendance de ces républiques, puisqu'ils vont s'autoproclamer république autonome donc, de Donetsk et république autonome de Luhansk. Et à partir de 2014, va donc y avoir, donc l'Ukraine, bien sûr, va réagir, donc l'armée ukrainienne va essayer de reprendre ces oblasts aux insurgés, aux parties pro-russes. Donc la communauté internationale va également réagir. Donc il va y avoir deux accords, en fait, qui vont être des accords de cessez-le-feu. Donc on n'a pas fini la guerre, mais on a au moins signé le cessez-le-feu. On arrête les hostilités immédiates. Il y en avait un premier dans 2014, donc un cessez-le-feu immédiat, et un second 2015 qui était signé en présence de présidents de la Fédération de la Russie et de présidents de l'Ukraine à l'époque, qui avait pour objectif donc de faire en sorte que le conflit baisse en intensité. Donc il y avait une ligne de démarcation qui avait été déterminée. Et depuis 2015, le conflit était en sommeil, c'est-à-dire il y a eu toujours de certains combats sporadiques qui reprenaient dans cette période, mais il n'y avait pas des affrontements réguliers comme on peut le voir.
Oui, donc pas de guerre
aujourd'hui
à proprement parler.
Oui. Sauf que le conflit est resté en sommeil. Il n'a jamais véritablement été réglé. Et lorsque Volodymyr Zelensky est arrivé au pouvoir, il n'a jamais caché sa volonté de régler les conflits, c'est-à-dire il voulait mettre terme définitivement à la guerre. Il n'a jamais caché sa volonté de se rapprocher à la fois de l'Union européenne et à la fois de l'OTAN, qui est une alliance militaire transatlantique, ce qui n'a pas absolument pas plu donc au président de la Fédération de la Russie. Et quand quand l'Ukraine a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de se rapprocher de l'OTAN et que les instances de l'OTAN n'ont pas dit non immédiatement, le président de la Fédération de la Russie a considéré que c'était une atteinte à un certain type d'accord, que c'est une atteinte à aussi la sécurité de son propre territoire. Il souhaitait des garanties contre la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Compte tenu que ces garanties n'arrivaient pas, il a pris la décision,
dans un premier temps,
de reconnaître l'indépendance de ces républiques autoproclamées, puisque c'était la première étape, 3 jours avant l'invasion, et 3 jours plus tard, envahir l'Ukraine au motif de vouloir cesser le génocide qui était en cours dans ces oblasts autoproclamés indépendants pro-russes de l'est de l'Ukraine.
D'accord. Mais donc, du coup, on peut vraiment parler d'invasion au niveau de l'Ukraine, parce qu'on dit souvent guerre, mais est-ce qu'on peut parler d'invasion ?
Alors, dans le langage courant, oui, on peut parler tout à fait d'invasion. Le droit international et le droit de la guerre n'emploient pas les termes d'invasion, ils parlent d'agression.
D'accord, c'est quoi la différence ?
Alors, l'agression... L'invasion, c'est lorsque vous essayez vraiment d'envahir l'ensemble du territoire et de l'avoir sous votre contrôle. Après, en droit, ces termes n'existent pas. C'est une qualification juridique différente. L'agression signifie qu'on emploie la force ou on menace d'employer la force et qu'on viole l'intégrité territoriale de notre État, ce qui est strictement interdit par le droit international. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'emploi de la force, ou même menace d'employer la force, est proscrit par les Nations Unies, par la Charte des Nations Unies. Donc, en franchissant la frontière, Vladimir Poutine a commis un acte d'agression.
D'accord.
Vis-à-vis de l'Ukraine. Il n'était pas obligé, en quelque sorte, d'envahir la totalité du territoire. L'agression elle-même avait déjà eu lieu, en violation donc, de règles de droit international.
Et vous parlez du coup de droit de la guerre, de droit humanitaire, ça correspond à quoi ? C'est quoi les principales règles du droit de la guerre ?
Alors, le droit de la guerre, c'est un droit qui est né à la fin du 19e siècle. Et un peu l'ironie de l'histoire de l'initiative russe, puisque c'était le tsar russe de l'époque qui avait souhaité introduire une certaine régulation dans la guerre, qui était une guerre sans règles, en vérité. En fait, chaque État pouvait conduire ses hostilités comme il entendait. Donc, le début du droit de la guerre, c'est la toute fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où on va commencer à établir quelles sont les règles dans la conduite des hostilités armées. Quelles sont les armes qui peuvent être autorisées ? Quelles sont les armes qui peuvent être interdites ? Et à cette époque, on va poser clairement un principe qui est un principe aujourd'hui fondamental en droit de la guerre, c'est-à-dire qu'on a droit d'attaquer tout ce qui est militaire, nous n'avons pas le droit d'attaquer tout ce qui est civil. Donc tout ce qui est les objectifs militaires, donc il peut y avoir des points stratégiques, le pont, les dépôts de munitions, les rassemblements des armées, donc ça, ce sont les objectifs militaires. Dans une guerre, il y a forcément un affrontement, donc il est admis qu'on attaque tous les objectifs militaires. En revanche, il est interdit, strictement interdit, d'attaquer les objectifs militaires et bien entendu les civils, les personnes civiles. Donc, dans un premier temps, on a surtout posé ces principes en tant d'objet civil, donc c'est-à-dire on a souhaité protéger des écoles, des hôpitaux, les lieux de culte,
voilà, tous les lieux culturels, toutes
les infrastructures. Ça inclut également les objets civils, dits civils. Ça inclut toutes les infrastructures qui sont indispensables à la vie d'une population. Donc, par exemple, les digues d'eau, ça peut être les centrales nucléaires, puisqu'elles approvisionnent en eau, en électricité, etc. Et bien sûr, il est interdit d'attaquer la population civile.
Donc ça comprend aussi les habitations, les quartiers résidentiels.
C'est... Tout à fait. Sauf si le quartier résidentiel est détourné de son objet initial, c'est-à-dire que le quartier est totalement vidé de la population civile. D'accord. Et on va installer, par exemple, dans le quartier résidentiel, par exemple, une armée ou une partie de l'armée. À ce moment-là, il n'y a plus de civils, ce n'est plus une résidence civile. Mais c'est à la charge de celui qui mène l'attaque de s'assurer
de
la destination, qu'il n'y a effectivement pas effectivement de population civile. Dans une guerre, il y a forcément de déplacements de population, donc il peut y avoir des quartiers résidentiels qui sont ensuite investis par l'armée à des objectifs, pour des objectifs militaires. Mais il faut s'assurer qu'il n'y a effectivement aucun civil.
D'accord. Et ça, c'est des règles qui s'appliquent de façon internationale.
Ce sont les règles qui s'appliquent de façon internationale, qui s'appliquent depuis le début du XXe siècle. Qui n'ont pas toujours été respectés, malheureusement. Mais...
Et d'ailleurs, dans le conflit qui nous intéresse aujourd'hui, donc le conflit ukrainien-russe, est-ce que ces règles sont respectées ?
Pas véritablement, pour ne pas dire pas du tout. Alors déjà, à ces règles de début du XXe siècle vont s'ajouter, après la Seconde Guerre mondiale, de règles qui sont issues de quatre traités qu'on appelle les conventions de Genève, celles qui constituent vraiment le cœur aujourd'hui de ce qu'on appelle le droit international humanitaire, et qui ont pour objectif de veiller au bien-être, en fait, et des blessés et des malades. C'est-à-dire que c'est les deux conventions qui concernent les soldats blessés ou malades, soit lorsque les affrontements ont lieu sur Terre, soit lorsqu'ils ont lieu sur la mer. On a eu déjà aussi les questions d'affrontements avec la marine russe. Et ce sont les règles qui régissent tout ce qui est le traitement des prisonniers de guerre. Donc il y a les règles qui s'appliquent aux personnes qui sont militaires, capturées et détenues par la partie adverse. Et ce qui est le plus important en ce qui nous concerne, puisqu'on parle beaucoup de civils, c'est la 4e convention de Genève qui, elle concerne les régimes d'occupation, c'est-à-dire une population civile qui va se trouver entre les mains de la partie adverse, entre les mains de l'ennemi. Donc, en l'occurrence, la population ukrainienne qui pourrait se retrouver entre les mains ou sous contrôle de l'armée rouge, de l'armée russe. Et dans ces cas de figure, il y a un certain nombre de règles que l'occupant a l'obligation de respecter.
Donc la façon dont on va traiter les civils en cas d'occupation.
Donc il ne faut pas dire qu'aucune des règles ne sont pas respectées. Les deux parties essayent, par exemple... assez bien prendre en compte le blessé. Il y a la question de prise en charge des personnes blessées. On avait vu notamment au moment de l'évacuation de la Syrie Azovstal à Mariupol. Donc on a essayé quand même de venir en aide aux personnes qui ont été blessées. On a d'abord évacué les femmes et les enfants et les personnes blessées civiles avant que les soldats ne se soient définitivement rendus. Donc ça, on est vraiment dans le cadre de ces conventions internationales. Donc y a pas, toutes les règles ne sont pas non plus mises à la poubelle par les parties en conflit. On parle également des échanges de prisonniers de guerre, donc on essaye d'aller dans le sens de la 3e convention de Genève, qui elle traite donc des prisonniers de guerre. Donc on essaye de s'arranger et pour préserver donc la vie et la santé de ces prisonniers de guerre. En revanche, il y a un certain nombre de règles qui, malheureusement, n'est pas respectées. Je pense aux attaques de civils, puisqu'il y a des bombardements ou des attaques des objets purement civils, des théâtres, des écoles, des hôpitaux, où la population civile est la principale victime et paye le frais le plus fort. Et ça, c'est juste en ce qui concerne, on va dire, le déroulement de combat. Et après, il y a un stade, on va dire, un degré au-dessus. C'est lorsque on découvre, une fois les passages ou les reculs d'une armée, des exécutions, des crimes ou des situations qui laissent penser qu'au-delà de non-respect de ces conventions dans les déroulements de combat, là, on a affaire clairement à des crimes, par exemple, à des crimes de guerre.
D'accord. Et comment on définit du coup un crime de guerre ? C'est le fait d'aller faire, d'aller tuer volontairement un civil, une exécution par exemple ?
Alors en fait, le crime de guerre, c'est précisément le non-respect de ce droit humanitaire dont je vous ai parlé. Ce droit humanitaire est régulièrement actualisé puisque ce qui était fait en début du XXe siècle, on a.
Oui, maintenant c'est plus le cas, notamment pour les armes.
Voilà, les armes, etc. Les choses ont évolué. XXe siècle, on ne connaissait pas du tout les armes nucléaires par exemple. Les conventions de Genève, qui sont de 1949, qui sont sur le droit humanitaire, ont été très largement réactualisées en 1977. Donc ce droit, il évolue avec l'évolution de formes de combat, puisque les affrontements désarmés sur un champ de bataille au XIXe siècle, ça n'a rien à voir avec les conflits que nous voyons aujourd'hui. Donc les droits humanitaires évoluent. Et les crimes de guerre sont des crimes où on ne respecte pas ces dispositions. C'est-à-dire on attaque les biens civils alors qu'on n'a pas le droit de les attaquer. On attaque les biens dits immunisés, soit parce qu'il s'agit des biens culturels, donc les monuments historiques, soit parce qu'il s'agit des objectifs sanitaires où on soigne les blessés et les personnes, soit parce qu'on va, par exemple, attaquer ou bombarder une centrale nucléaire qui, elle, peut par la suite causer des dégâts extrêmement importants à l'environnement, à la population, par la contamination. Donc, si on ne respecte pas l'ensemble de ces conventions, à ce moment-là, on commet un crime de guerre.
D'accord. Il y a des sanctions, pour le crime de guerre ?
Alors, c'est probablement la question la plus difficile en droit international, puisque on a essayé, après la Seconde Guerre mondiale, de réfléchir sur les sanctions des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Dans l'immédiateté de la Seconde Guerre mondiale, je pense que beaucoup de personnes connaissent le tribunal militaire de Nuremberg qui a été monté et mis sur pied pour juger des criminels, des plus grands criminels nazis. Il y a eu un tribunal comparable qui a eu lieu à Tokyo. Et puis, la communauté internationale s'est un tout petit peu mise en sommeil en ce qui concerne le droit pénal international, probablement en raison de situations géopolitiques, de blocs structurés, d'un côté l'URSS, de l'autre côté les États-Unis. En tout cas, le droit international pénal n'était pas véritablement mis en avant de toutes les discussions, on va dire, diplomatiques, jusqu'à ce qu'il y ait la guerre en ex-Yougoslavie. Il y avait la dislocation de l'ex-Yougoslavie et puis les génocides rwandais. Et c'est là où la communauté internationale va réagir immédiatement en mettant en place des juridictions exprès pour ces deux événements. Il y a eu un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, un autre tribunal pénal pour le Rwanda, qui avait pour objectif de juger des personnes qui sont rendues coupables de toute une série d'actes qui s'apparentaient soit à des crimes de guerre, soit à des crimes contre l'humanité, soit, notamment en ce qui concernait le Rwanda, à un génocide. Et on s'était rendu compte qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'il y a un événement dramatique, réagir en faisant des juridictions, ce qu'on appelle juridictions ad hoc, c'est-à-dire temporaires, juste pour l'événement en question.
C'est uniquement pour ça, c'était uniquement spécialisé,
tout à fait. Et l'objectif, c'est là où la communauté internationale a véritablement réagi et a créé une cour pénale internationale, qui est une juridiction permanente, qui n'est pas là juste en fonction de ce qui se passe, en fonction d'un événement particulier. C'est une juridiction permanente. Donc en 1998, on va élaborer donc le statut de cette juridiction et elle va commencer à fonctionner à partir de 2002, donc assez rapidement. Le problème, c'est qu'actuellement, sur 193 États qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies, il n'y en a que 123. Qui ont adhéré au statut de cette juridiction, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent la compétence de la Cour pénale internationale.
Voilà, le fait est qu'il faut adopter en fait cette compétence dans son propre droit.
Tout à fait. Il faut ratifier les statuts c'est un traité international, donc il faut le ratifier. La France l'a fait. Mais là, par exemple, les États-Unis ne l'ont pas fait. La Russie ne l'a pas fait. La Chine non plus, donc les grands puissances actuelles mondiales ne sont pas adhérées à cette convention. D'ailleurs, l'Ukraine, initialement, n'était pas non plus partie au statut de Rome, mais à deux reprises, notamment à partir de 2013, où les événements ont commencé à se cristalliser autour de différentes manifestations du Donbass. À deux reprises, l'Ukraine a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale, ce qui permet aujourd'hui aux procureurs de la Cour pénale internationale d'enquêter sur les territoires ukrainiens sur ce qui se passe.
Ah oui, donc c'est un véritable avantage en fait pour l'Ukraine de pouvoir avoir les yeux de la communauté internationale directement sur son territoire.
Complètement, puisque pour puisqu'on assiste à un certain nombre d'informations assez contradictoires. L'Ukraine accuse la Russie de crimes de guerre, la Russie accuse l'Ukraine également de crimes de guerre en retour.
Et donc du coup, avec ça, on peut déterminer quels sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité éventuellement, qui sont commis sur le territoire et par qui?
Tout à fait, c'est l'objectif. C'est la raison pour laquelle donc, l'invasion de l'Ukraine a eu lieu le 24 février. Dès le 2 mars, le procureur de la Cour pénale internationale s'est saisi et ouvrait une enquête. Et vous avez 44 États qui ont déposé une demande à ce que l'enquête sur ces crimes commis sur les territoires ukrainiens soit ouverte. Donc on a aujourd'hui un mouvement assez fort de la communauté internationale pour avoir précisément cet égard impartial. Le procureur de la Cour pénale internationale, il est britannique, il n'est pas parti en conflit. Il dispose de moyens qui lui permettent donc d'effectuer ce travail. Donc il y a plusieurs niveaux d'intervention, puisque vous avez déjà les procureurs ukrainiens, le procureur général de l'Ukraine qui, lui, recueille un certain nombre de preuves lui-même. Donc il y a la justice ukrainienne qui enquête sur ce qui se passe actuellement. Vous avez la Cour pénale internationale qui enquête sur ce qui se passe. Vous avez un certain nombre d'organisations non gouvernementales, donc des ONG qui enquêtent. Il y a Amnesty International précisément qui l'enquête. Il y a Human Rights Watch qui est là également sur place pour acquérir un certain nombre d'informations. Et vous avez un certain nombre d'experts qui ont été missionnés par l'Organisation des Nations Unies, par le Conseil des droits de l'homme, pour essayer également d'enquêter et mettre la lumière sur ce qui se passe en Ukraine. Donc ce regard de la communauté internationale est impartial précisément pour qu'on ne pervertisse pas les preuves, pour qu'on puisse vraiment faire la lumière sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. Puisque un conflit, il est souvent porteur des exactions qui sont commises par différents soldats. Ce sont des événements extrêmement dramatiques où parfois les gens qui sont impliqués commettent des crimes qui, dans des circonstances hors situation de guerre, n'auraient jamais commis. Donc il faut faire vraiment la lumière sur ce qui se passe sur place.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément d'informations sur le sujet. Et d'ailleurs, il y a effectivement plusieurs rapports d'Amnesty International qui ont été édités et qui sont édités en permanence. Et l'information est quasiment en direct. Pour finir, on va peut-être parler un petit peu des civils sur le territoire ukrainien. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quelle est la situation aujourd'hui des civils sur le territoire? Est-ce qu'il y a moyen des couloirs pour de réfugiés qui ont été créés quelles sont les conditions de vie au niveau sanitaire ou même au niveau économique?
Alors, la situation est, pour le moment, qu'on puisse dire, dramatique. Aujourd'hui, à peu près dans les derniers jours, on a plus de 6 650 000 réfugiés ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine.
D'accord.
À ces 6 650 000 réfugiés s'ajoutent près de 3 millions de personnes qui ont besoin d'aide sur place, qui sont précisément dans les territoires sous soit le feu de combat, soit sous les menaces de bombardement.
Donc les personnes des zones de conflit.
De la zone de conflit, donc ils perdent parfois leur maison, qui n'ont plus de toit au-dessus de la tête. Quand on bombarde, on détruit les infrastructures, distribution d'eau, enfin l'eau devient contaminée, enfin donc c'est extrêmement difficile. Et vous avez à cela un chiffre également important qui est de 7 millions de personnes qui sont déplacées au sein même de l'Ukraine, c'est-à-dire sans avoir quitté les territoires, mais les personnes qui cherchent à fuir les combats pour se réfugier dans d'autres parties du territoire.
D'accord.
Donc il manque de médicaments principalement, il manque de vivres et il manque souvent de l'eau potable et de l'acheminement de l'eau potable. Il va falloir de plusieurs années pour reconstruire tout ce qui a été détruit puisque les principales infrastructures sont actuellement totalement détruites. Donc l'aide elle est acheminée de manière continue, donc à la fois par l'Union européenne, puisque l'Union européenne a débloqué des sommes relativement importantes pour la prise en charge à la fois des réfugiés ukrainiens sur le territoire de l'Union européenne et à la fois dans l'envoi des vivres et des aides, du matériel, des hommes qui peuvent aider donc, la population.
Oui, il y a eu une grosse réaction de la part de la communauté internationale et des instances de pouvoir au niveau international qui a un œil sur la situation et qui du coup réagit en faveur des civils généralement. Il y a aussi un statut spécial qui a été fait pour les réfugiés ukrainiens, il me semble.
C'est ce qu'on appelle la protection temporaire.
Voilà, la protection temporaire, vous pouvez nous en parler rapidement.
Alors, en fait, c'est en 2001, L'Union européenne a adopté une directive dite sur la protection temporaire, c'est-à-dire pour permettre d'offrir à des personnes qui sont dans la situation comme les réfugiés ukrainiens, c'est-à-dire lors d'un conflit armé, etc., pour pouvoir leur accorder un statut lorsque ces personnes fuient, par exemple, les combats, leur accorder un statut sans que ces personnes soient obligées de demander, par exemple, un statut de demandeur d'asile. Le statut de demandeur d'asile est un statut extrêmement contraignant. Il est accordé pour des raisons, des persécutions politiques, religieuses, etc. Il n'est pas évident toujours à obtenir. Et en fait, cette directive était restée totalement en sommeil. On l'a réactivée pour la première fois au tout début mars. Le Conseil de l'Union européenne a pris la décision donc, de réactiver cette directive et offrir la protection temporaire aux personnes dites déplacées d'Ukraine, c'est-à-dire à toutes les personnes qui arrivent du territoire ukrainien.
D'accord, et il me semble que ça dure 3 ans.
Alors normalement, il est accordé pour 6 mois, mais il peut être
d'accord.
Effectivement...
Et après, il peut être reconduit jusqu'à 3 ans.
Tout à fait. Ça permet d'avoir une autorisation de séjour dans le pays, donc d'un des pays de l'Union européenne. Ça permet de verser une allocation à l'instar de celle qui est versée aux demandeurs d'asile. Ça permet d'exercer une activité professionnelle à ces personnes. Ça permet de scolariser les enfants, notamment les enfants, enfin surtout les enfants mineurs, ça permet d'avoir l'accès aux soins. Donc ça permet d'avoir un séjour immédiatement, un statut légal sur le territoire et l'accès à tout ce qu'il faut pour que ces personnes puissent continuer à vivre en dehors de leur maison.
Bon, c'est déjà une très bonne initiative justement pour les civils ukrainiens. Alors à Amnesty International, on espère que c'est une initiative qui pourrait un petit peu plus se généraliser pour d'autres conflits. On pense notamment à la Syrie.
Puisque cette directive n'a pas du tout été réactivée au moment des conflits syriens, en raison notamment du blocage de certains pays.
Alors que la situation est relativement similaire, parce que ça reste un conflit armé. Si vous voulez, en tant qu'auditeur et auditrice, vous intéresser un petit peu plus à cette question du point de vue d'Amnesty International, on a pas mal de rapports, comme je le disais, qui sont édités très très souvent sur le site amnestyinternational.fr. Vous pouvez également signer des pétitions ou envoyer des lettres aux instances de pouvoir pour montrer que la communauté internationale regarde et s'intéresse au conflit et faire activement partie de ces personnes qui condamnent ce qui est fait en ce moment sur le territoire ukrainien. Et vous pouvez aussi participer à des collectes de médicaments ou de matériel de soins, parce qu'il y en a pas mal qui se font à Montpellier, notamment dans des pharmacies. Il y a une association qui s'appelle Solidarité à l'Ukraine, je crois, qui ramasse vos médicaments ou autre matériel de soins dans les pharmacies. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour nous parler en détail de ce conflit avec beaucoup de précisions juridiques. Et vous pourrez réécouter du coup cette émission la semaine prochaine à la même heure. Moi, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt sur Radio FM+.